jeu.
Bonjour.
Doit-on s'inquiéter de la situation actuellement sur le marché?
Écoutez, ce qui vient de se passer sur Silicon Valley Bank est un symptôme plus qu'une crise en elle-même, mais on se trouvait devant une spirale à laquelle le gouvernement fédéral a dû mettre fin et il a réussi à le faire. Donc, je dirais qu'il n'y a pas du tout un scénario de type 2008 où l'ensemble de la sphère financière a été en énorme difficulté et où on a dû intervenir pour des montants colossaux. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de garder la tête froide et de se rendre compte qu'il y a des leçons certainement à tirer de ce qui vient de se passer. Il y a des sanctions aussi qui vont devoir être prises, mais il n'y a pas aujourd'hui de risque systémique.
Alors, garder la tête froide, c'est aussi le discours qu'on entendait au début de la crise de 2008. La Silicon Valley Bank, c'est quand même la plus importante institution financière qui fait faillite depuis cette crise-là. Il y a quand même une peur pour l'instant qui domine les marchés après la faillite de cette banque.
Nous venons de passer dans les trois dernières années avec la pandémie, les politiques monétaires des banques centrales, la baisse des taux, l'intervention, un certain nombre de scandales, ce qui s'est passé dans la cryptosphère et puis maintenant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Il faut reconnaître que nous sortons d'une période secouée et je ne suis pas sûr qu'on est occupé à en sortir d'ailleurs. Donc je crois que l'ensemble de l'activité financière a connu des secousses beaucoup plus fortes que ce qu'on avait connu dans le passé. Et donc, on peut comprendre parfaitement que, face à cette situation, que ce soit des investisseurs ou des participants, etc., une crainte se soit établie et que la confiance ne soit pas restaurée.
Alors, comment expliquer, si on zoome un peu sur cette société, la Silicon Valley Bank, comment vous expliquez cette chute?
À la base, si vous voulez, il y a eu une hausse des dépôts dans les banques pendant la période de pandémie. Les gens levaient des fonds, il y a eu des activités et ils avaient des millions et ils les mettaient en banque en attendant l'utilisation. Vous avez une reprise de l'économie, ces dépôts commencent à être utilisés pour l'activité économique. Mais cela signifie que le secteur bancaire voit les dépôts diminuer. Or, comme la Silicon Valley Bank avait traité ces dépôts et traiter cette situation en achetant des obligations d'État à long terme alors que les dépôts étaient à court terme, ils ont pris le risque qu'un retournement des taux d'intérêt qui s'est produit aurait pour conséquence que s'ils devaient répondre à une sortie des dépôts, ils allaient devoir prendre des pertes. À partir de ce moment-là, malheureusement, et je sais que c'est surprenant, quand à un moment donné le doute s'installe, ça va extrêmement vite et il a donc fallu que les autorités fédérales interviennent tout de suite pour empêcher la chute complète.
Des autorités fédérales américaines donc qui réagissent et un président qui tente de rassurer, c'est pas forcément rassurant ça, quand même le président doit à un moment donné...
Attends, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est une vision un peu européenne. À chaque crise financière que j'ai connue, et quand même 25 ans que je suis aux États-Unis, le président est toujours intervenu. Donc ça fait partie de la liturgie locale, il ne faut pas y voir un sens de gravité quelconque.
Alors, vous avez expliqué comment à un moment donné les dépôts sont partis, une certaine fuite des investisseurs, notamment dans la tech, parce que la Silicon Valley c'était la banque des startups. Ça augure peut-être aussi le début d'une crise, une transposition de la crise économique et sociale vers une crise justement des investisseurs et une crise financière?
Alors, je ne pense pas. En tout cas, ceci ne créera pas un risque systémique quel qu'il soit. Mais je pense que ce qui s'est passé depuis, j'allais dire, 2-3 ans, met en question la stabilité financière du secteur qu'on appelle la fintech, finance technologique, dans lequel on retrouve le metaverse, les cryptos, etc., etc. Et ce secteur n'est pas un secteur très solide. Et donc, je crois qu'effectivement, il va y avoir une révision sur la manière dont le secteur des fintech se finance.
Vous avez été vice-président de la Bourse de New York, Georges Jeux. Vous êtes actuellement encore là-bas à New York, dans une banque d'affaires, justement. Est-ce qu'avec le recul, vous avez le sentiment, vous parlez de stabilisation financière, là, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'on a tiré les leçons de cette grande crise financière de 2008 des subprimes?
Je crois qu'on a tiré des leçons de la crise précédente, mais je crois que l'on n'a pas encore tiré des leçons des conséquences des politiques monétaires des banques centrales face à la pandémie. Elles ont noyé le marché de liquidité qui ne pouvait pas se mettre dans l'économie réelle, d'autant plus que l'économie réelle était fermée, et ça s'est mis dans des actifs financiers. Puis vous avez vu, la bourse, après avoir fait une correction, a monté de plus de 100% en l'espace pratiquement d'un an. Donc, dans cette situation-là, si vous voulez, l'effet de choc provoqué par la politique monétaire va devoir nous amener à nous poser des questions sur la manière dont les banques centrales se sont comportées, compte tenu du fait que nous sommes quand même dans un monde extrêmement volatile.
Un monde extrêmement volatile avec des marchés sur les dents, très variables justement à ces mouvements de peur et de panique. Vous qui scrutez aussi la finance, on parle beaucoup de la guerre et de l'inflation des prix, des denrées alimentaires, des grandes matières premières. Tout ça, c'est pas dû à l'invasion en Ukraine, c'est aussi dû à la peur des marchés, on l'oublie. Si les prix augmentent, c'est parce que les marchés paniquent.
Si vous parlez effectivement des taux des matières premières, là on est parfaitement au clair et il faudra, quand on aura regardé cette période, se poser la question de à qui profite l'inflation ? Quels ont été les spéculateurs qui ont été derrière les prix du gaz et les prix du pétrole ? Qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette sphère où nous avons subi de plein fouet des augmentations de factures d'électricité, de coûts de la nourriture, qui ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la guerre ? Et vous avez tout à fait raison. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire qu'après cette phase-là, on va découvrir qu'un certain nombre de choses se sont produites. Aujourd'hui, la priorité est évidemment de faire face à l'inflation, mais une fois que l'on aura calmé le jeu, je pense que nous allons aller vers des révisions déchirantes par rapport au comportement d'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques.
Et c'est là que pour la majorité des Belges, l'opinion publique, c'est très compliqué de percevoir c'est quoi cette grande finance, qui les marionnettistes derrière ces marchés. Vous, vous y voyez plus clair, honnêtement, Georges ?
Alors écoutez, je vous dirais ceci, et je sais que ça va peut-être surprendre vos auditeurs. Je ne suis pas un grand amateur de la théorie des conspirations. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a derrière l'écran des gens qui manipulent avec d'horribles motivations, etc. Quand vous regardez ce qui se passe dans les matières financières, en matière financière, il faut toujours poser la question qui profite. Parce que finalement, vous avez une série d'acteurs qui n'ont ni foi ni loi, mais qui veulent simplement profiter des fluctuations. Et donc, c'est à la fois pas une situation dans laquelle vous avez des complots, mais vous avez simplement des gens qui cherchent à s'enrichir. Alors là, par contre, se pose un problème fondamental. Est-ce que l'évolution des marchés ne finit pas par, aujourd'hui, favoriser essentiellement les gens qui sont dans le marché par rapport au reste de la population ? Et là, nous avons un problème de société. Et celui-là ne fait que commencer.
C'est un regard critique sur le monde dans lequel vous avez évolué durant toute votre carrière. Il y a une prise de conscience quand même à un moment donné.
Écoutez, il y a à la fois une prise de conscience, c'est clair, mais il y a aussi une évolution des marchés qui ont permis que beaucoup d'éléments des marchés financiers finalement ne profitent qu'à une partie de la population. Et je crois que le problème des inégalités est absolument posé et je crois qu'il va falloir accepter que certains acteurs ont été responsables de la croissance de ces inégalités. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement un problème sociétal qui est de se dire, est-ce que nous pouvons continuer à long terme avec des marchés qui cherchent à s'enrichir sans ni foi ni loi, sans prendre en considération leurs responsabilités sociales? Il faut, à mon avis, rééquilibrer une structure qui, dans les 10 dernières années, a fonctionné uniquement pour certains.
Et on en revient à cette question de la stabilité financière et la stabilité de ces marchés. Merci, Georges, pour cet entretien depuis New York.
Merci à vous et bonne journée.